Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, comment la première ministre italienne, Giorgia Meloni, s'est-elle imposée au sein de l'Union européenne, chef d'un gouvernement de coalition droite-extrême droite depuis un an et demi? Elle est passée de l'image d'une candidate post-fasciste, dangereuse, à celle d'une dirigeante plus crédible dont la voix compte aujourd'hui à Bruxelles. Mais si sur la scène européenne, elle a abandonné son discours nationaliste, anti-Union, en Italie, elle continue de mener une politique bel et bien d'extrême droite. Alors, quel est son bilan après un an et demi de pouvoir? Comment analyser sa stratégie diplomatique? Et quelles sont ses chances aux élections européennes de juin prochain? Alan Caval est le correspondant du Monde en Italie, il nous répond. Extrême droite, comment Giorgia Meloni devient incontournable sur la scène européenne? Un épisode de Claire Leys, réalisation Florentin Baume. Juin 2018, la présidente du parti d'extrême droite, Fratelli d'Italia, Frères d'Italie, est invitée sur le plateau d'une émission politique de la chaîne LA7. Elle est alors députée. Le présentateur la questionne alors sur l'arrivée de migrants aux abords des côtes européennes. Quelle est, selon elle, la solution ?
Demander à l'Europe la création d'une mission européenne pour mettre en place un blocus naval au large des côtes libyennes. Le problème n'est pas de savoir où débarquer ces personnes qui quittent la Libye. Ici, le problème est de déterminer comment empêcher ces personnes de quitter la Libye. Il n'y a pas d'autre solution.
Un blocus naval, une mesure drastique, militaire et surtout peu réaliste. Elle nécessiterait l'accord des autorités libyennes et européennes. Juillet 2023, Giorgia Meloni est désormais à la tête de l'Italie et elle enchaîne les initiatives diplomatiques comme l'organisation de cette conférence internationale sur la migration. Une vingtaine de pays du pourtour méditerranéen sont réunis autour d'elle à Rome.
Et au centre des flux migratoires, ci sono soprattutto loro, les personnes.
Au centre des flux migratoires, il y a avant tout des personnes, des vies, des espoirs, des craintes, des souffrances, exploitées par des organisations criminelles qui ne suivent que la logique du profit. Il est de notre devoir, bien sûr, de prendre soin de nos États, mais il est aussi de notre devoir de nous préoccuper du sort de ces personnes.
Si le but de Giorgia Meloni est toujours le même, empêcher au maximum l'arrivée de migrants en Europe, la présidente du Conseil a compris que le blocus naval et les provocations de son passé ne passeraient plus. Un discours plus crédible, qui appuie sur les souffrances des personnes migrantes, une approche plus fine, mais tout de même une politique migratoire qui reste fidèle à ses origines politiques. Bonjour Alan.
Bonjour Jean-Guillaume.
Alors Alan, on vient d'en avoir un aperçu sonore. La posture de Giorgia Meloni a beaucoup évolué depuis son élection à la tête de l'Italie en 2022. Tu vas nous raconter tout ça. Mais déjà pour resituer, elle était donc arrivée au pouvoir avec une majorité claire, nationale conservatrice, grâce à une coalition de droite et d'extrême droite. Est-ce que tu peux nous rappeler quel parti composait cette coalition ?
Alors, la coalition est composée d'abord de Fratelli d'Italia, qui est le parti de Giorgia Meloni. C'est une droite nationale conservatrice qui vient de la tradition post-fasciste. Ensuite, on a la Ligue de Matteo Salvini, qui est un parti d'extrême droite anti-migrant. Et donc, Salvini, lui, est devenu vice-président du Conseil. Enfin, le troisième parti qui constitue cette coalition est Forza Italia, qui est un parti de centre-droit, le parti de Silvio Berlusconi. Donc, sa coalition a rassemblé plus de 44% des suffrages, dont 26% des voix pour le parti de Meloni. Elle est donc devenue présidente du Conseil, c'est-à-dire le Premier ministre en Italie.
Et donc, ça fait maintenant un an et demi qu'elle gouverne le pays. Est-ce qu'elle est toujours aussi populaire en Italie qu'au moment de son élection ?
Elle enregistre des succès importants aux élections régionales qui ont eu lieu en Italie tout au long de l'année. Sa coalition a par exemple remporté un scrutin dans les Abruzzes, en Lombardie, dans le Latium et tout récemment dans le Basilicate. Une seule défaite a été enregistrée en Sardaigne, mais ce n'est pas suffisant pour dire qu'elle soit maintenant affaiblie. Par ailleurs, selon les derniers sondages, les intentions de vote pour Fratelli d'Italia sont aujourd'hui à 28,5% pour les européennes.
Et alors, Alan, lorsqu'elle était dans l'opposition politique, avant qu'elle soit élue première ministre, donc, elle était coutumière d'un discours assez radical, notamment sur les questions sociétales. Est-ce qu'elle a gardé la même ligne une fois au pouvoir?
Pendant la campagne, elle avait déjà modéré ses positions. Et arrivée au pouvoir, elle n'a pas fait forcément ce qu'on aurait pu attendre d'elle, venant d'un parti aussi marginal et radical, à savoir de se lancer dans une entreprise de transformation illibérale du pays. En revanche, depuis qu'elle est au pouvoir, on constate qu'il y a certains signaux qui sont donnés, des signaux qui sont des mesures d'extrême droite, qui relèvent d'un discours d'extrême droite, comme par exemple une circulaire ministérielle qui demande à ce que les mères ne reconnaissent pas les enfants issus de couples du même sexe, ou encore des mesures qui favorisent les milieux anti-avortement. Mais en revanche, on ne voit pas de programme articulé de transformation illibérale du pays jusqu'à présent.
Alors cette politique de l'ambiguïté, Alan, elle n'empêche pas l'opposition de s'opposer frontalement aux réformes de Meloni. Dernier exemple en date, mercredi 17 avril, lors d'une séance parlementaire, la députée du mouvement 5 étoiles, Gilda Sportiello, a pris la parole pour fustiger un amendement du gouvernement dans une vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Cet amendement, il prévoyait de soutenir l'accès des associations anti-IVG aux cliniques du pays pour tenter de dissuader les femmes qu'ils souhaiteraient d'avorter.
Je suis mère. J'ai choisi d'être mère. Il y a 14 ans, j'ai choisi d'avorter. Et vous savez pourquoi je le dis ici, au sein du plus haut lieu de représentation démocratique de ce pays? Ou encore aujourd'hui, certaines personnes ont du mal à prononcer le mot avortement. Ou ont les jambes qui tremblent lorsqu'elles parlent d'avortement. Je le dis parce que j'aimerais qu'aucune femme qui souhaite avorter en ce moment ne se sente attaquée par cet État.
Il faut savoir que les associations anti-IVG sont déjà très actives dans les centres où les femmes peuvent se diriger pour recourir à des interruptions volontaires de grossesse. Simplement, lorsqu'on parle aujourd'hui à des militantes de la défense du droit à l'avortement, elles expliquent que, selon elles, cet amendement a pour but de remettre la question de l'avortement sur le débat, dans le débat public national et de continuer à porter le discours selon lequel ce serait une tragédie évitable pour les femmes, tragédie que ces organisations anti-IVG seraient là pour éviter.
Et alors, Alan, si tu avais l'air de dire qu'il n'y avait pas de transformation illibérale complète de la société, la gauche italienne dénonce pour autant quand même les dérives autoritaires de Meloni. Alors, comment est-ce que le jeu démocratique fonctionne depuis qu'elle est au pouvoir?
Alors, on voit des signaux ponctuels qui vont vers un renforcement de l'exécutif. D'abord, il y a l'usage très fréquent des décrets-lois qui réduisent le rôle du Parlement. Ensuite, Giorgia Meloni, comme plusieurs de ses prédécesseurs, veut modifier la Constitution pour rendre le poste du président du Conseil, c'est-à-dire du Premier ministre, plus important, plus puissant, réduisant ainsi les pouvoirs du président de la République, qui est perçu comme le garant de la Constitution en Italie. Là, la proposition de modification de la Constitution est en cours de discussion au Parlement. Le chemin législatif est encore long, mais ça devra passer probablement par un référendum constitutionnel. Il faut savoir que pour Giorgia Meloni, cette réforme de la Constitution est considérée comme la mère de toutes les réformes. On peut également citer le positionnement de Giorgia Meloni sur la question des violences policières. En février, des manifestations étudiantes ont été durement réprimées par les forces de police, des manifestations contre les massacres en cours à Gaza. Et le président de la République, garant de la Constitution, est intervenu en expliquant que l'autorité ne devait pas s'appuyer sur des formes de violence. Giorgia Meloni, en quelque sorte, lui a répondu indirectement en déclarant pour sa part son soutien aux policiers et en demandant aux institutions de soutenir la police et non de la critiquer.
Alan, la présidente du Conseil, est également accusée par ses opposants de vouloir museler les médias publics, l'audiovisuel public italien. Il y a d'ailleurs eu une nouvelle polémique à ce sujet récemment. Est-ce que tu peux nous expliquer?
Alors, un écrivain italien très célèbre, Antonio Scurati, qui est l'auteur d'une série de romans sur Benito Mussolini, devait lire à l'antenne, sur une chaîne de l'audiovisuel public, un texte où il accusait Giorgia Meloni de ne pas avoir pris ses distances avec le fascisme. Or, ce discours qui devait être prononcé le week-end dernier a été annulé par la chaîne. Cela a provoqué une très forte polémique dans la mesure où, depuis qu'elle est arrivée au pouvoir, Giorgia Meloni et son gouvernement ont repris en main l'audiovisuel public, qui s'appelle en Italie la RAI, et en mettant au poste les plus importants des fidèles de son courant politique. Cela s'est traduit par des démissions de plusieurs animateurs vedettes et par un vrai sentiment de malaise parmi les journalistes qui estiment que leur indépendance est aujourd'hui menacée.
Et comment est-ce qu'elle a réagi, Giorgia Meloni, à ces accusations de censure ?
Alors très rapidement, Giorgia Meloni a publié un post sur sa page Facebook où elle a reproduit in extenso le texte du discours qui avait été, selon ses opposants, censuré par l'audiovisuel public. Selon elle, l'annulation du discours avait en fait été causée par des questions financières, l'écrivain ayant demandé une somme trop importante pour la chaîne. Mais il y a un nouvel épisode dans cette confrontation entre l'audiovisuel public et le gouvernement, puisque jeudi 25 avril, le syndicat principal de la RAI a appelé ses journalistes à faire grève les 6 et 7 mai prochains en réaction à ce qu'il désigne comme une ingérence politique du gouvernement et par des pressions qui se sont par ailleurs traduites très récemment par un appel téléphonique du Premier ministre albanais Edi Rama, qui est proche de Giorgia Meloni, un rédacteur en chef de l'audiovisuel public italien à qui il reprochait la teneur d'un reportage sur les zones d'ombre de l'accord migratoire entre l'Italie et l'Albanie que défend Giorgia Meloni.
Ok, donc un malaise autour de cette reprise en main de l'audiovisuel public italien. Mais alors, Alan, est-ce que c'est finalement nouveau en Italie que les présidents de l'audiovisuel, de la RAI, soient plutôt proches politiquement du gouvernement en exercice ?
Historiquement, dans le système italien, la RAI, les organes dirigeants de la RAI, reflètent la composition politique de la majorité. Ils sont nommés par les institutions politiques, le Parlement, le Sénat, la présidence du Conseil notamment. Et donc, ils reflètent une certaine coloration politique. Et cette coloration politique va jusqu'au rédacteur en chef des journaux, par exemple, de l'audiovisuel public. Ça, c'est une situation qui existe depuis les années 70. La différence, c'est que les partisans de Giorgia Meloni veulent imposer un nouveau discours national, un nouveau récit national, comme ils le disent eux-mêmes, ce qui implique évidemment une certaine tension dans les rédactions.
Alan, j'aimerais maintenant qu'on parle de la politique extérieure de Giorgia Meloni, puisque c'est finalement ce qu'on voit beaucoup, nous, hein, depuis la France. On l'a vu en début d'épisode, son discours sur l'Europe, il a complètement changé, c'est ça ?
Disons que Giorgia Meloni, dans l'opposition, c'était quelqu'un qui défendait un euroscepticisme radical, voire parfois même complotiste, et qu'une fois qu'elle est arrivée au pouvoir, on a vu qu'elle tenait très fermement à changer d'image. Son premier voyage à l'étranger en tant que présidente du Conseil s'est fait à Bruxelles. Elle a très clairement mis l'Italie dans le camp pro-Kiev au niveau international, alors même qu'elle s'était prononcée contre les sanctions visant la Russie en 2014. Ce positionnement lui a permis de construire une relation très étroite avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dont elle a obtenu le soutien, notamment sur le dossier migratoire.
Et alors justement, autre exemple assez marquant de son évolution, c'est sa manière d'aborder le discours migratoire. Le fond reste le même, hein. Il faut qu'il y ait moins de migrants qui arrivent en Italie, mais sa manière de l'aborder, plus légaliste peut-être, avec un partenariat avec les pays du Maghreb, est différente, c'est ça ?
C'est-à-dire que Giorgia Meloni veut combattre l'immigration clandestine, comme elle le dit, à la racine. Ce qui implique d'avoir une politique très volontariste vis-à-vis des États d'origine et aussi les États de transit. Dans sa vision des choses, l'immigration clandestine peut être combattue en coopération avec ces pays. Et pour obtenir ces coopérations, elle a mis en place un programme qui s'appelle le Plan Mattei et qui est un programme de coopération et d'investissement censé établir des relations très étroites avec les principaux États d'origine et de transit des migrants.
La Tunisie non peut diventare il paese di arrivo.
La Tunisie ne peut pas devenir le pays où arrivent les migrants provenant du reste de l'Europe. Sur ce point, il faut certainement renforcer la coopération. Nous voulons impliquer les organisations internationales et travailler sur les rapatriements. Mais nous voulons aussi travailler sur les flux de migration réguliers.
C'est donc une politique sur le long terme qui est très différente de celle que portait le leader de la Ligue, Matteo Salvini, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur entre 2018 et 2019, et qui lui avait mis en place une politique de ports fermés visant notamment les ONG de sauvetage des migrants. La politique de Giorgia Meloni sur la question des ONG reste répressive, mais elle est plus subtile, dans le sens où à présent, les ONG sont envoyées vers des ports du nord de l'Italie, donc loin de leur zone d'opération, ce qui engendre pour elles des coûts et ce qui conduit à ce qu'elles ne puissent pas opérer autant qu'elles le pourraient dans la zone de recherche et de sauvetage de la Méditerranée centrale.
D'accord, donc si je comprends bien, cette politique, elle implique des accords avec les pays africains. Et alors justement, comment est-ce qu'elle est accueillie, Giorgia Meloni, par ces pays?
Alors disons que Giorgia Meloni a un discours qui promeut les partenariats d'égal à égal entre l'Italie et les pays africains qui sont visés par sa politique. Elle veut s'opposer par là à l'idée d'une toute forme de néocolonialisme et mettre en avant la souveraineté des États africains. Alors bon, c'est un discours qui effectivement a de quoi séduire, mais dans les capitales des pays africains concernés, on reste encore sur ses gardes et on attend de voir réellement ce que concrètement il pourra ressortir de ces accords de coopération et de ces accords d'investissement passés avec l'Italie.
Alan, j'aimerais maintenant qu'on en vienne au Parlement européen, puisque c'est ça aussi qui nous intéresse en ce moment. Quel est son groupe parlementaire, qui a d'ailleurs été rejoint récemment par le parti français Reconquête, avec Marion Maréchal Le Pen et Éric Zemmour. Ce groupe parlementaire-là, ECR, qu'est-ce que c'est? Quelle est sa place? Quel est son poids au Parlement européen?
Ce groupe, ce sont les conservateurs et les réformistes européens. Aujourd'hui, au Parlement, il compte 68 eurodéputés venant de 18 États membres différents, et ce qui représente un peu moins de 10% des sièges de l'hémicycle. Ce parti, qui va bénéficier de visiblement des bons scores prévus pour Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni aux prochaines élections européennes, entend et espère à l'avenir peser davantage sur les équilibres politiques au niveau du Parlement européen.
Et alors la question que je me pose, puisque justement les partis européens des différents pays s'allient au sein du Parlement européen dans des eurogroupes, quel est le positionnement de Marine Le Pen et du Rassemblement national par rapport à cet eurogroupe de Giorgia Meloni?
Alors le Rassemblement national de Marine Le Pen appartient à un autre groupe d'extrême droite au Parlement européen qui s'appelle ID, Identité et Démocratie. Ce groupe peut être considéré comme un concurrent politique de l'ECR, mais il lui arrive de voter en même temps que l'ECR sur certains dossiers, notamment en matière environnementale. Par ailleurs, Giorgia Meloni et Marine Le Pen ne sont pas exactement des alliés politiques. Marine Le Pen est beaucoup plus proche de Matteo Salvini, de la Ligue, qui appartient également au groupe ID, et elle est très critique de Giorgia Meloni du fait de son rapprochement avec les institutions européennes et aussi du fait de son positionnement très nettement pro-ukrainien dans la guerre en cours. Elle lui a reproché d'être du côté des globalistes et des mondialistes et, en quelque sorte, d'avoir renié sa dimension eurosceptique.
Donc Alan, pour conclure cet épisode, si je te suis bien, Giorgia Meloni et son groupe européen sont en bonne voie pour emporter les élections le 9 juin prochain en Italie.
Oui, ils sont très bien placés puisque en Italie, ils sont crédités aujourd'hui de 28,5% des intentions de vote. C'est une victoire qui s'annonce pour elle et qu'elle pourra utiliser pour encore renforcer sa mainmise sur sa coalition.
Donc en fait, Giorgia Meloni est dans une forme d'état de grâce quand même depuis un an et demi. Alors qu'est-ce qui pourrait faire que cet état de grâce prenne fin?
Disons qu'elle n'a pas vraiment d'obstacle devant elle. Son opposition est fragmentée, encore incapable de produire un contre-discours. Et dans sa coalition, ses partenaires sont bien trop faibles pour lui faire de l'ombre. Donc pour elle, la route est dégagée.
Merci Alan.
Merci.
Si vous voulez en savoir plus sur l'actualité italienne, je vous invite à aller lire les reportages et les analyses d'Alan Cavale sur notre site. Et pour soutenir le travail de L'Heure du Monde et de toute son équipe, allez donc faire un tour sur abopodcast.lemonde.fr. Vous y découvrirez une offre d'abonnement spécialement conçue pour les auditeurs et auditrices de ce podcast. Un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement. La semaine prochaine, pas d'épisode, l'équipe du podcast prend une petite pause et j'aurai le plaisir de vous retrouver dès le lundi 6 mai. Très bonne semaine à vous.